France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, les mille vies d'un certain Fridtjof Nansen. Le 17 mai 1930, jour de fête nationale, les Norvégiens sont massés par milliers à Oslo, dont les drapeaux ont été mis en berne. Car il s'agit de saluer le convoi funéraire de Fridtjof Nansen, tiré par quatre chevaux noirs. Cet homme est un héros national. Scientifique, champion de ski, explorateur, il est le premier à avoir réussi la traversée du Groenland, terre hostile de glace, de pierre et de tempête. Diplomate, il est aussi l'un des artisans de l'indépendance de la Norvège, acquise en 1905. Mais sa notoriété dépasse largement les frontières de son pays. Et on peut imaginer que la nouvelle de son décès fait naître des pensées émues chez des milliers de réfugiés dans le monde entier, russes et arméniens principalement. Alors qu'ils avaient tout perdu, privés de leur nationalité, donc apatrides, Nansen, devenu haut-commissaire aux réfugiés à la Société des Nations, leur a permis d'avoir des papiers, le fameux passeport Nansen. Notre invité aujourd'hui, Alexis Génie, écrivain, auteur de l'ouvrage « Le passeport » de Monsieur Nansen, justement, livre paru en 2022 aux éditions Paulsen. Affaires sensibles, l'émission de France Inter, récit documentaire Odile Conseil, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation David Leprince.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
La nature, la neige, les grandes expéditions à ski, les baignades dans les lacs, celle connaît Nansen. Né en 1861, petit dernier d'une famille recomposée de 7 enfants, il est entraîné par ses demi-frères et sœurs dans tous les jeux et aventures possibles dans les environs d'Oslo, qui s'appelait alors Christiania, entre forêts, fjords et montagnes. Très vite, le jeune Fridtjof excelle dans toutes les activités de plein air, particulièrement en ski. Alors une spécialité norvégienne, inconnue partout ailleurs. Il n'est pas en reste avec le patinage sur glace. À 18 ans, il bat le record du monde de cette discipline sur 1 mile, soit 1,6 km. L'année suivante, il gagne le championnat national de ski de fond, un record qu'il réitère l'année suivante, et ainsi de suite pendant 10 ans. Dans l'intervalle, à l'université de Christiania, il se spécialise en zoologie. Il aurait pu passer le restant de ses jours le nez sur un microscope en étudiant le système nerveux des animaux marins, sujet de son doctorat. Que nenni ! S'il choisit cette discipline, c'est parce qu'il pense qu'elle lui permettra de mener une vie au grand air. Eh bien, c'est rien de dire qu'il sera servi.
À l'avant, toute voile dehors !
En route, offrez-moi cet horizon.
Sur les conseils d'un professeur, il embarque sur un navire dédié à la pêche aux phoques afin d'y mener des expériences scientifiques. Il établit par exemple que la glace de mer se forme à la surface de l'eau plutôt qu'en dessous, contrairement à l'hypothèse en vigueur. Il démontre également que le Gulf Stream coule sous une couche d'eau froide de surface. Mais surtout, alors que le phoque est immobilisé dans les glaces pendant près d'un mois face à la côte orientale du Groenland, le jeune homme de 21 ans est fasciné, quasiment ensorcelé par le spectacle qui s'offre à lui. Il le raconte dans son ouvrage « En ski à travers le Groenland ».
Derrière la nappe blanche des glaces flottantes s'élevaient de magnifiques massifs de pics et de glaciers resplendissants de lumière. Le soir, lorsqu'il se détachait sur un fond de nuages empourprés par le soleil des nuits de l'été polaire, ils étaient plus magnifiques encore. Cette terre inconnue m'attirait. Sa vue remuait mon âme et je fis le projet d'arriver à cette côte que tant de marins avaient vainement essayé d'atteindre.
Et c'est comme ça que Nansen s'est entiché pour toujours de ce pays de glace. Et le voilà, égaré loin de la vie tranquille, de la science, selon ses propres mots. « Nansen décide de mener une expédition qui traverserait le Groenland d'est en ouest, soit 600 km environ de banquise, puis d'Inland 6, c'est-à-dire la couche de glace qui recouvre la terre et la roche de cet immense territoire. Ce n'est pas la première fois qu'une telle entreprise est tentée, mais les prédécesseurs de Nansen avaient fait demi-tour, vaincus par l'hostilité du lieu. Avec l'assurance de ses 26 ans, Nansen envoie une lettre au conseil académique de l'université de Christiania. Pour mener à bien ce projet, il demande 5000 couronnes, soit 15 000 € environ. Sa missive est tournée ainsi, lue dans l'émission Le Temps d'un bivouac sur France Inter.
Je me propose d'organiser l'été prochain une expédition de patineurs pour traverser l'Inland 6 du Groenland. Jusqu'ici, les Norvégiens n'ont guère contribué à l'exploration des terres polaires, tandis que le Danemark et la Suède ont organisé de coûteuses expéditions vers ces régions lointaines. Notre pays est resté indifférent à ce mouvement. Les Norvégiens sont pourtant le peuple le mieux doué pour de semblables entreprises. Plus facilement que tous les autres, nous pouvons supporter le froid de ces régions et surtout, l'habileté de nos patineurs nous assure la supériorité.
Mais Nansen n'est pas pris au sérieux. En haut lieu, personne ne voit l'intérêt d'explorer l'intérieur d'un Groenland stérile et solidement défendu par son énorme carapace de glace. Mais coup de chance, un mécène danois finance l'expédition. Et le 3 juin 1888, le jeune homme et les 5 compagnons qu'il a choisis quittent l'Islande à bord d'un baleinier norvégien qui les laissera au plus près du Groenland. Nansen a très sérieusement préparé cette expédition. Dans le livre qu'il publie à son retour, qui sera largement utilisé comme guide pratique par tous les explorateurs polaires, il donne le détail de tous les équipements prévus. Les traîneaux, leurs dimensions, le type de bois à privilégier, la largeur des patins, la taille des skis, une pratique alors peu connue ailleurs qu'en Scandinavie, un canot spécialement conçu pour traverser les chenaux en eau libre de la banquise, les rations pour tenir 60 jours, le réchaud à alcool, les chaussures, les vêtements, les instruments de mesure, rien n'est laissé au hasard. Idem avec les sacs de couchage, en peau de renne, plutôt qu'en laine.
Nous avions 2 sacs de couchage pouvant contenir chacun 3 hommes. Il aurait été certainement préférable de n'en avoir qu'un seul pour nous tous. Mais si le traîneau qui le portait était tombé dans quelques crevasses, notre position serait devenue très critique. Avec 2 sacs, pareille éventualité n'était pas à craindre. Si nous en perdions un, 4 hommes pouvaient prendre place dans celui qui restait et nous aurions dormi à tour de rôle.
Les débuts sont rudes. La traversée de la banquise, constituée de morceaux de glace dérivants, entraînée par des courants capricieux, les met à plusieurs reprises en danger. Les canots risquent à tout moment d'être pris en étau entre les plaques de glace. Il leur faut près de 2 semaines pour s'en libérer. Fin juillet, ils atteignent enfin la terre ferme. Mais ils ont pris du retard sur leur feuille de route qui doit leur faire rejoindre la côte occidentale au plus tard le 15 septembre pour regagner leur pays avec le dernier navire avant que l'hiver n'interdise la navigation. Désormais, nous dormirons seulement quelques heures par jour, décrète le chef, en ne mangeant que des biscuits et de la viande séchée. Oui, le réchaud servira uniquement à faire fondre la glace pour avoir de l'eau. Pas le temps de chasser ni de cuire des aliments. Allez, en route! Alors il leur faut d'abord remettre le canot à l'eau et longer la côte vers le nord, car les courants les ont menés bien trop au sud par rapport à l'itinéraire prévu. Après plusieurs journées épuisantes, dans une banquise mouvementée, à lutter contre les courants côtiers, ils arrivent à l'endroit souhaité. La petite troupe, la caravane comme l'appelle Nansen, se réjouit.
Nous buvons du café et soupons sur le rivage près des canots. Le cœur rempli de joie. Nous courons encore bien des dangers. Nous éprouverons bien des difficultés. Mais nous aurons sous les pieds la terre ferme. La traversée d'un glacier, aussi pénible qu'elle soit, nous causera moins de soucis que la navigation au milieu des glaces flottantes, pendant laquelle les canots risquaient à chaque moment d'être écrasés. Le paysage a un air de sauvage grandeur.
Et des difficultés, il y en aura. D'énormes difficultés. Mais pour l'heure, les énergies sont consacrées à la préparation de l'expédition terrestre. Après la remise en état des traîneaux, jusqu'alors inutilisés, et surtout de leurs patins mangés par la rouille, et après la vérification et la remise en état des chaussures, il est temps de se mettre en route. Les hommes s'attellent chacun à un traîneau. Ils sont deux pour tirer celui qui ouvre la marche et qui doit tracer la route. Nous sommes alors le 15 août et leur longue marche débute. La plupart du temps, Nansen et ses compagnons chaussent leurs skis, leurs patins norvégiens, comme ils les appellent familièrement. Mais la poudreuse ralentit leur progression. De terribles tempêtes immobilisent parfois les hommes plusieurs jours d'affilée dans leur tente et les obligent ensuite à un sérieux travail de déblayage pour exhumer les traîneaux ensevelis. À quelques occasions, surtout lorsqu'ils entament leur descente vers la côte occidentale et lorsque le vent est favorable, des toiles huilées utilisées pour protéger les équipements de l'humidité se transforment en voiles. Nansen le raconte, les deux traîneaux de tête sont rendus solidaires, tout comme les trois autres derrière.
Un de nous, monté sur les skis, se place en avant, tenant vigoureusement à la main un bâton inséré entre les deux traîneaux en guise de timon. Il gouverne avec ce bâton et se laisse glisser, poussé par le véhicule. Deux d'entre nous, également montés sur des skis, se tiennent au dossier du traîneau. Le signal de départ est donné. Sverdrup prend place au timon de notre traîneau et nous filons rapidement. Cramponné à l'arrière du véhicule, je suis entraîné à toute vitesse sur les skis. La déclivité maintenant plus accusée rend la vitesse vertigineuse. Le traîneau semble voler à la surface du glacier.
Un à un, tous les obstacles sont franchis, toutes les difficultés surmontées. Et la caravane arrive à la colonie danoise de Godthaab le 30 septembre, 95 jours après avoir quitté le baleinier. La traversée de l'Inland 6 leur a demandé 5 semaines. Faute de navire, c'est trop tard, ils passent l'hiver sur la glace, nouant de vrais liens avec les Groenlandais qu'on appelait alors Esquimaux, ainsi qu'avec les Danois de la colonie. En bon scientifique, Nansen se fait anthropologue. Je vivais avec les Esquimaux dans leur hutte, j'allais avec eux à la chasse, j'observais leurs mœurs et j'étudiais leur langue. Quelques mois plus tard, au printemps 1889, Nansen et ses compagnons sont de retour à Christiania, où ils sont fêtés en héros. Encouragé, Nansen met rapidement en chantier un nouveau projet, celui dont rêve tout explorateur à l'époque, la conquête du pôle Nord. Plusieurs tentatives, anglaises ou américaines, ont échoué, dont celle du capitaine américain DeLong, sur une ancienne canonnière rebaptisée Jeannette, broyée par les glaces au large de la Sibérie. Or, 3 ans plus tard, des vestiges de la Jeannette sont retrouvés. Retrouvés où ? Au sud-ouest du Groenland. Le scientifique Nansen en déduit donc ceci.
Si la plupart des expéditions arctiques entreprises jusqu'ici ont échoué, c'est qu'elles étaient dirigées dans des mers où le courant porte vers le sud. À mesure que le navire avance vers le nord, les glaces en débâcle deviennent de plus en plus nombreuses, puis finalement bloquent le navire et l'entraînent en arrière. En avançant avec des traîneaux sur la banquise, les explorateurs s'épuisent en efforts inutiles. Ils marchent vers le nord, et pendant ce temps, la lente dérive des eaux les repousse vers le sud. Pour atteindre le bassin polaire, il faut au contraire suivre un courant portant au nord. En un mot, accomplir sur un navire le voyage des épaves de la Jeannette.
Ce sera donc l'objectif, naviguer vers la Sibérie, s'y faire capturer par les glaces et attendre tranquillement que le courant transpolaire le mène le plus au nord possible. Comme précédemment, l'accueil est au mieux sceptique, le plus souvent critique. Mais l'explorateur, sûr de lui, passionné, regard bleu glacé, moustache conquérante, fort du succès de la traversée du Groenland, emporte le soutien du Parlement norvégien qui lui vote une subvention. Alors il fait construire par le meilleur architecte naval du pays un bâtiment susceptible de résister à la pression des glaces. La coque, l'arrière, l'avant et la quille reçurent une forme bien arrondie afin que nulle part la glace ne pût trouver prise, précise-t-il. Il est baptisé Fram, ce qui veut dire en avant en norvégien. Ce navire confortable prend la mer le 24 juin 1893, avec à bord une douzaine d'équipiers et un stock de provisions pour plusieurs années. Deux mois plus tard, dans la zone où la Jeannette avait été vaincue par la glace, le capitaine coupe le moteur. Et le navire entame sa dérive. Bon, jusque-là, tout se passe comme prévu. Mais le courant, censé les mener au nord, se révèle plus capricieux que prévu. Et le 31 décembre, Nansen affiche sa déconvenue.
Vieille année, tu m'as apporté la déception. Tu ne m'as pas conduit aussi loin vers le nord que je l'avais espéré. Après tout, tu aurais pu me traiter encore plus mal. Mes calculs ne se sont-ils pas réalisés en partie ? Le Fram n'a-t-il pas poussé dans la direction désirée ? Une seule chose me contrarie, la multiplicité des zigzags que le courant nous impose.
Rien de dramatique, certes. Le bateau est confortable, bien chauffé, il y a suffisamment de provisions, l'équipage pratique des relevés météo et des mesures de profondeur, mais les choses ne vont pas assez vite au goût du chef de l'expédition. Il calcule qu'à ce rythme, il mettra 5 ans pour atteindre le pôle. Comme le passager d'un véhicule pris dans un embouteillage, eh bien il décide de finir à pied. Le 14 mars, Nansen se met en route avec l'un des hommes du bord, Hjalmar Johansen, 3 traîneaux, des chiens et 2 kayaks. Et puis des armes et des provisions, bien sûr. Ils iront jusqu'au pôle, puis redescendront vers l'archipel François-Joseph et rejoindront les Svalbard, où ils pourront trouver un bateau. Le Fram, de son côté, poursuivra sa dérive jusqu'à l'Atlantique Nord et regagnera la Norvège une fois libéré de l'océan gelé. Alors s'il arrive que les traîneaux glissent à bonne allure sur une banquise plate et lisse, ce n'est pas toujours le cas. Quand la glace est accidentée, couverte de humox, ces monticules de neige durcies, et que de surcroît, il faut porter les traîneaux pour passer outre, la progression est harassante. Pour les chiens aussi. Régulièrement, il faut sacrifier une bête malade dont la viande est donnée en pâture au reste de la meute.
Michael, where is Mark? Where is Matthew? Now it's getting dark. Oh, where is Joan? They're all out back. Come to 15 feet up. My neighbor waved to me, but my neighbor is my enemy. I kept waving my arms till I could not see. Under 15 feet of pure white snow. Is there anybody out there, please? It's too quiet in here and I'm beginning to freeze. I got icicles hanging from my knees. Under 15 feet of pure white snow. Is there anybody here who feels this low? Under 15 feet. Is there any wonder, oh my Lord?
écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, les mille vies de Fridtjof Nansen.
Affaires Sensibles. Fabrice Drouel.
Seul sur une banquise irrégulière, hostile, dans un froid glacial, les efforts de Nansen et de son compagnon semblent vains.
Nos progrès sont extraordinairement lents. Un mouvement de dérive repousse très certainement vers le sud la banquise sur laquelle nous avançons dans la direction du nord. Nous sommes à la merci des vents et des courants, la plus décevante position pour un explorateur polaire. Maintenant, je commence à croire qu'il sera sage de suspendre bientôt notre marche vers le nord.
Oui, persévérer avec pas assez de chiens dans cet environnement serait suicidaire. Alors l'équipage enregistre un dernier relevé à 260 km du pôle. C'est le point le plus septentrional jamais atteint par des humains. Pour autant, Nansen et Johansen ne sont pas au bout de leur peine. Se diriger vers le sud sans carte précise est bien compliqué. En août, ils sont en vue d'une terre. Ça tombe bien, car il leur faut se mettre à l'abri pour l'hiver qui arrive. Ils s'attellent à la construction d'une cabane en pierre. Dans l'ouvrage qu'il a consacré à Nansen, l'écrivain Alexis Génie décrit cette installation.
Avec des outils bricolés, une dent de morse comme pic, une omoplate de phoque comme pelle, un patin de traîneau comme levier, ils descellèrent des pierres, les transportèrent en les roulant à l'aide du levier, puis bâtirent des murs autour d'une tranchée. 90 cm pour les murs, autant pour la tranchée. Ils pourraient se tenir debout. Le sol était inégal, garni de pierres figées par le gel. Un bois flotté forma le faîtage et deux pots de morse servirent de toiture. Le local faisait 2 mètres sur 3. Il leur parut luxueux. C'était grand comme des toilettes, bien sûr sans fenêtres, et ils allaient y habiter plusieurs mois.
8 mois, exactement. Avant de s'y retirer, ils ont fait des provisions de viande et de graisse, tué d'abondance phoques et ours polaires qui pullulent dans la région, et les voilà parés pour l'hiver arctique, pas autant que faire se peut. La nuit polaire s'installe, la routine des journées sans lumière également, l'ennui surtout.
Une singulière existence que la nôtre, dans ce trou de troglodyte et dans l'inaction la plus complète. Si seulement nous avions un livre. Les tables de navigation et l'almanach sont les seuls livres que nous ayons à notre disposition. L'almanach, tant de fois je l'ai lu et relu, que je sais par cœur toute la généalogie de la famille royale, toutes les instructions pour soigner les noyés et tout le memento du pêcheur. Quoi qu'il en soit, la vue de ces caractères imprimés est pour nous un réconfort. C'est le faible lien qui nous rattache encore à la civilisation. Depuis longtemps, tous les sujets de conversation sont épuisés. Force nous est donc d'en inventer de nouveaux. Un de nos plus grands plaisirs est de nous représenter la vie que nous mènerons l'an prochain à la maison, au milieu de toutes les bonnes choses dont nous avons désappris l'usage.
Le printemps revenu, Nansen et ses équipiers quittent la cabane, cherchant à rallier un lieu occupé par des humains, reprenant leur équipée infernale, en kayak ou à ski, selon le terrain. À 3 reprises, l'histoire aurait pu s'arrêter là pour Nansen. Alors qu'il avance à ski, la glace molle de la banquise s'effondre sous lui. Il parvient à planter son bâton pour ne pas couler à pic, lesté par le poids du traîneau. Johansen le tire de ce mauvais pas. Un peu plus loin, un kayak mal amarré prend le large, il plonge pour le rattraper, nage encore et encore, mais tétanisé par l'eau glaciale, il a les pires difficultés à l'atteindre, et met des heures à se réchauffer. Enfin, alors qu'il pagaie le long d'une île, un morse agressif cherche à renverser son embarcation, crevant la coque avec ses défenses. Nansen réussit à grand-peine à atteindre la côte, là encore, il était moins une. Enfin, après un mois de déambulation hasardeuse, des aboiements se font entendre au loin. Des aboiements dans cette région, c'est qu'il y a des humains. La suite, c'est Nansen qui la relate dans l'ouvrage « Vers le pôle ».
Tour à tour, je passe du doute à la certitude. Nos souffrances, nos privations vont-elles enfin prendre fin ? J'entends un aboiement beaucoup plus distinct et soudain, je crois entendre le son d'une voix. La première voix étrangère depuis 3 ans. Au milieu des hummocks blancs, j'aperçois une forme noire. C'est un chien, puis une autre forme noire. Un homme. Un homme. Nous marchons à la rencontre l'un de l'autre. J'agite mon chapeau. Il répète le même mouvement. Je l'entends parler au chien. C'est un Anglais. Nous nous serrons les mains avec un cordial « How do you do ?»
L'anglais en question appartient à une expédition britannique confortablement installée dans une maison de bois sur la côte, dans l'archipel François-Joseph. Nansen et les siens sont ensuite rapatriés par le navire qui vient régulièrement ravitailler la station britannique. Le retour en Norvège, en septembre 1896, encore une fois est triomphal. D'autant que le Fram, lui aussi, a regagné sans encombre ses côtes natales. Nansen est alors auréolé du titre d'homme qui a atteint le point le plus au nord du globe. À ce moment-là, bien sûr, puisque le pôle sera conquis en 1909 par l'Américain Peary. Et c'est sur le Fram que naviguera Roald Amundsen lors de sa conquête du pôle sud fin 1911. Avec ski, traîneau et chien, bien entendu. Le récit que publie Nansen de son expédition est un immense succès qui fait briller son nom dans le monde occidental et le met à l'abri du besoin. Il se consacre ensuite à la zoologie, puis devient directeur du laboratoire international de recherche sur la mer du Nord, basé à Christiania. Ses articles en faveur de la séparation de la Norvège d'avec son tuteur suédois lui valent le poste d'ambassadeur à Londres, une fois l'autonomie totale acquise en 1905. Puis en 1919, lors de la création à Genève de la Société des Nations, avec pour mission de rendre une nouvelle guerre mondiale impossible, ce qui est saisissant quand on connaît la suite. Bref, Fridtjof Nansen y est nommé à la tête de la délégation norvégienne. C'est alors un homme d'une 40aine d'années que le quotidien français Le Temps décrit comme très grand, les épaules larges, avec une attitude énergique et une grosse moustache blonde que l'approche de la 50aine a marqué d'un peu de gris. Derrière le diplomate, on sent l'explorateur qui a risqué sa vie des centaines de fois pour la gloire de son pays. Il a quitté la banquise instable pour rejoindre le terrain encore plus instable des négociations difficiles. À la SDN, ces négociations difficiles vont rapidement devenir réalité. Sa première mission concerne le rapatriement des prisonniers de guerre. Sur France Inter, en mars 2022, l'historienne Annette Becker décrit leurs conditions.
La Grande Guerre, c'est aussi la Grande Guerre des prisonniers. Et c'est surtout la Grande Guerre des prisonniers sur le front oriental. Dès le début de la guerre et jusqu'à 1917, un très très grand nombre de prisonniers ont été faits, qui vivaient d'ailleurs dans des conditions épouvantables et qui étaient sur tout l'espace russe. Mais on ne les laissait pas proches de la frontière de l'Autriche-Hongrie ou de l'Allemagne, mais on les envoyait jusqu'en Sibérie, d'où l'énorme complication. Et ceux qui s'occupaient de rapatrier les prisonniers, c'est le CICR, c'est-à-dire la Croix-Rouge internationale située à Genève. C'est devant le drame du non-repatriement que l'on décide d'appeler Nansen à la rescousse.
Travaillant en bonne intelligence avec les organisations déjà présentes sur le terrain, en particulier la Croix-Rouge, peu versé dans les combines politiques, Nansen prend sa tâche à cœur, animé d'un unique objectif, permettre le rapatriement de ses hommes. Il prend notamment contact avec la Russie soviétique, et avec succès. Des trains et des navires sont trouvés pour procéder au rapatriement. Quelques 600 000 soldats reviennent ainsi à la maison. Mais des centaines de milliers de réfugiés réclament ensuite son attention, en particulier les Russes qui ont fui leur pays pour échapper aux bolcheviks. Ils s'entassent dans des camps autour d'Istanbul, vivent dans des conditions plus que précaires. La Croix-Rouge, débordée par la situation, lance un SOS à la Société des Nations. Celle-ci crée alors le poste de haut-commissaire aux réfugiés russes et le confie à Nansen, comme en témoigne Alexis Génis dans son livre.
Il était le candidat idéal, honnête, indépendant, courageux, d'une nécessaire innocence pour croire au bien malgré tout, et il rayonnait encore devant les responsables politiques, administratifs et financiers de l'aura de cet explorateur qui avait enflammé leur jeunesse. Lui, on l'écoutait.
Aggravant la situation dramatique de ces exilés, Lénine les déchoit collectivement de leur nationalité à la fin de l'année 1921. Ils ne sont plus russes, ils ne bénéficient plus de la protection d'un État, ils sont comme privés d'identité. 1,5 million d'individus sont devenus apatrides, sans possibilité de passer une frontière dans un monde qui a commencé à généraliser les passeports. Alors en juillet 1922, Nansen en crée un pour tous ces gens perdus. Oui, un document établi sous la responsabilité de la SDN et reconnu par un accord international. Une grande idée. Car ce document, officiellement nommé certificat d'identité et de voyage, place ses détenteurs sous la protection du Haut Commissariat aux réfugiés. La nationalité inscrite sur ce passeport, indéterminée. Pendant des mois, Nansen ne se ménage pas, se rend dans les capitales, rencontre moult responsables nationaux, argumente et convainc. Dès 1924, le passeport Nansen est reconnu par 38 États, permettant aux apatrides de passer les frontières. Parmi eux, Chagall, Stravinsky, Rachmaninov, Nicolas Vestal, Onassis, entre autres. Dans sa première version, ce document ne ressemble pas au passeport tel que nous le connaissons. Bilingue, établi dans la langue du pays émetteur et en français, c'est un grand cahier de plusieurs pages, de 34 cm sur 41. Plus tard, ses proportions diminuent pour en faire un carnet qui se déplie en accordéon et cette fois aux dimensions des passeports classiques. Premier bénéficiaire, les Russes, privés de leur nationalité. Ensuite, les Arméniens, victimes du génocide perpétré par les Turcs. Les survivants, repoussés dans le sud de l'Empire ottoman, s'entassent misérablement dans le désert de ce qui est aujourd'hui la Syrie. Nansen prend la parole en faveur de ces gens à la SDN. Ses propos sont lus ici par le comédien Gérard de Sarthe dans le film Nansen, un passeport pour les apatrides de Valentine Varela et Philippe Saada.
De manière identique au gouvernement russe, le gouvernement turc actuel refuse de permettre aux réfugiés arméniens de retourner chez eux en territoire turc. Dès lors, ce gouvernement serait mal fondé à refuser que de tels certificats soient délivrés aux Arméniens. Par ailleurs, il serait bien de rappeler que la Société des Nations a, par trois fois, adopté des résolutions en faveur des Arméniens et de leur foyer national, sans qu'elles ne soient jamais suivies des faits. Voici l'occasion de faire un tout petit peu en faveur de ces réfugiés, et je pense que nous devons la saisir.
Les Arméniens, on l'a dit, bénéficient du passeport Nansen. La France en accueille beaucoup. Elle a besoin de bras pour renouveler la force de travail décimée par la Grande Guerre. Mais les détenteurs de ce document, qu'ils soient russes ou arméniens, ne sont pas toujours accueillis à bras ouverts. Voici par exemple ce qu'écrit l'un d'eux, l'écrivain Vladimir Nabokov, dans son autobiographie titrée « Autre rivage ».
La Société des Nations munissait les émigrés qui avaient perdu leur citoyenneté russe d'un passeport dit Nansen, document très accessoire, d'une nuance vert pâle. Son titulaire valait à peine mieux qu'un criminel libéré sur parole et devait passer par d'odieuses épreuves chaque fois qu'il voulait voyager d'un pays dans l'autre. Et plus les pays étaient petits, plus ils étaient tatillons. Quelque part, dans le fin fond de leur glande, les autorités sécrétaient cette notion que, peu importe à quel point un État, disons la Russie soviétique, pouvait être mauvais, toute personne ayant fui cet État était intrinsèquement méprisable du fait qu'elle s'était soustraite à toute administration nationale. Et par conséquent, on marquait à son endroit la désapprobation absurde avec laquelle certains milieux religieux regardent un enfant né hors mariage.
Il n'empêche, 450 000 passeports Nansen seront délivrés entre les deux guerres, soit autant d'individus redevables à son créateur norvégien d'avoir pu survivre, voyager et recommencer une vie. Comme Isaac Manouchian, arrivé en France en 1924 et honoré désormais au Panthéon. En 1922, Nansen reçoit le prix Nobel de la paix pour son action en faveur des prisonniers de guerre. L'intéressé trouve ce prix étrange et incompréhensible. Il m'est donné, dit-il, pour des travaux où je suis arrivé un peu par hasard, qui n'étaient pas du tout de mon domaine. Il a raison. Son domaine, c'est celui des glaces, des courants, des pôles. Il y pensera jusqu'au bout. Il envisage même un survol du pôle Nord en avion, lui qui s'était toujours méfié du modernisme mécanique, comme il disait. Mais il échoue à lever les fonds nécessaires et abandonne le projet. La mort le rattrape, banalement, le 13 mai 1930. Une crise cardiaque met fin à la vie de cet homme au courage et au destin exceptionnel.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, les mille vies de Monsieur Nansen, dont nous parlons avec notre invité Alexis Génie. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain. Je rappelle que vous avez eu le prix Goncourt en 2011. Tiens, on vient d'avoir, il y a quelques instants, les nommés pour le prix Goncourt 2025.
C'était pour tous les ans.
Oui, c'était pour votre premier roman publié, L'Art de la Guerre. Oui. Vous avez signé ensuite plusieurs biographies, dont celle de Fridtjof Nansen, l'homme qui nous intéresse aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a incité à suivre sa piste? Et je vais être plus précis. Est-ce que c'est l'homme du passeport, Nansen, qui vous intéresse, ou l'explorateur, ou les deux?
Bah, ça a été les deux. C'est quand je me suis rendu compte que c'est la même personne. Parce que avant, je pensais qu'il y avait deux Nansen, un qui était diplomate et puis un qui était explorateur polaire. Puis je me suis rendu compte un jour, par hasard, en lisant un bouquin qui parlait des pôles, que c'était le même. Et je me suis intéressé aux deux pour des raisons différentes. L'explorateur polaire, c'était pour des raisons romanesques. Parce que j'ai beaucoup lu Paul-Émile Victor, j'ai lu Jules Verne, etc. Et je trouvais ça incroyable, ce qu'il a vécu. Et puis, l'autre côté, c'est pour des raisons historiques, réflexives, sur comment ça s'est passé, le cas des apatrides, la reconstitution, la recomposition des frontières à la fin de la Première Guerre mondiale, et comment on a traité ce problème des apatrides. Et on l'a traité assez magistralement grâce à ce passeport. Donc les deux m'intéressaient, mais ça, l'un alimentait l'autre.
Oui. Puis quelle résonance avec aujourd'hui.
Alors, bien sûr.
Vous le décrivez dans les premières pages de votre ouvrage comme un homme exceptionnel, c'est Nansen, on est tous d'accord là-dessus. Ses exploits sportifs, ses études de zoologie, de neurologie, sa haute stature, son regard bleu acier. Mais alors, il ne semble pas avoir été un homme très sympathique. Il est quand même un peu pénible à vivre, dites-vous. Et il efface carrément ce qui le dérange.
Ouais, bah c'est que il est champion du monde dans tout ce qu'il fait, et les gens comme ça, c'est agaçant. J'ai découvert à un moment ses écrits personnels, sa correspondance ou alors son journal, et là, je me suis rendu compte que derrière cette image du grand champion du monde toute catégorie, eh ben il était très angoissé, très mélancolique, il avait toujours l'impression de pas être à la hauteur. Mais à partir de là, ça devenait un personnage romanesque, intéressant.
Oui, et il mène son équipe à la baguette, hein. Interdiction Absolument. De café, une pipe avec tabac par semaine. Est-ce qu'il était apprécié des hommes qui l'accompagnaient? Est-ce que c'est ça la vraie question?
Bah, il était admiré, mais au bout d'un moment, il le trouvait pénible. Alors, pas tellement dans l'expédition Groenland, mais dans l'expédition Fram. Il s'est quand même resté 2 ans sur le bateau. Quand il est parti, il a dit « je termine à pied », les autres l'ont pas retenu. Parce que dans leur journal aussi qu'ils ont tenu pendant cette expédition, il le trouvait pénible de se mêler de tout. Il expliquait à tout le monde comment il fallait faire, mieux qu'eux. Et voilà, c'était. Mais heureusement, il y avait Sverdrup, qui était le capitaine du bateau, qui recevait dans sa cabine les membres de l'équipage, qui venaient se plaindre un peu. Donc, il les calmait. Il était bon. C'était la part humaine de l'expédition. Mais bon, après, il était admirable parce qu'il la savait emporter les gens.
Comment ça?
Donc, voilà, c'était vraiment c'était un meneur d'hommes.
Alors, lorsqu'il entame sa traversée des Groenland, on pensait qu'au centre de cet endroit, il y avait une oasis de verdure où les troupeaux pouvaient paître. Alors, qu'est-ce qui pouvait laisser penser cela? Je pose la question au professeur de sciences de la vie que vous avez été.
Alors, n'oublions pas qu'à l'époque, on ne savait absolument rien de l'intérieur du Groenland. On n'avait pas d'avion, pas de vue aérienne, on ne savait pas. On avait juste des montagnes extérieures. Et il y avait des fantasmes assez romantiques ou romanesques de monde perdu, de monde isolé. C'est Conan Doyle qui a fait un roman qui s'appelle Le Monde Perdu, qui est au milieu de l'Amazonie, là aussi avec des dinosaures qui restaient. Il y avait ces fantasmes-là. qu'on pensait que peut-être les courants chauds pouvaient faire fondre la glace, il y aurait pu avoir peut-être un endroit. Puis on s'était rendu compte que les caribous, ils disparaissaient pendant quelques mois, puis ils revenaient, ils n'avaient pas l'air affamés. Donc c'est qu'il devait y avoir quelque chose qui les nourrissait. Bon, c'était absurde, mais c'était le romantisme de l'époque.
Bah oui, c'est comme on a cru longtemps que sur Mars, il y avait des martiens. Hein. C'est un peu pareil.
Absolument. Et on les voyait, il y avait des canaux.
Oui.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Alexis Génie, Nansen était très méticuleux hein, pour préparer ses expéditions. Vous me direz, c'est la base hein, quand on va dans une aventure comme celle-là. Mais alors lui, c'était vraiment un champion, notamment en matière d'alimentation, je crois.
Oui, bien sûr, il avait tout prévu, ce qu'on pouvait manger, ce qu'on devait manger. Donc il avait commandé dans une entreprise spécialisée du pemmican, qui est une sorte de truc un peu monstrueux, avec de la viande en poudre mélangée à de la graisse. Bon, mais ça, la commande n'avait pas vraiment été à la hauteur, c'est-à-dire qu'il y avait trop d'eau, donc ça avait gelé, et il a fallu qu'il casse ça à la hache. Ou alors il avait aussi commandé du chocolat au sang.
Pardon.
Ah oui, mais c'est sûrement très nourrissant. Mais c'est vrai que ça fait plus partie des choses qu'on a envie de manger.
C'est heureux. Alors, il était pointillé aussi sur l'habillement, je crois. Une passion pour la laine. Ce qui peut se comprendre aussi, vu les températures dans ces coins-là.
Alors, non, ça, c'est un truc qui, c'était avant, quand il était encore en Norvège. Il avait lu les propos d'un médecin allemand, un petit peu naturphilosophie, etc. Donc, qui disait que les seuls vêtements qu'on pouvait porter, c'était la laine, parce que eux seuls pouvaient évacuer la chaleur humaine, la transpiration, garder la peau sec, etc. Enfin, bon. Donc, il s'habillait avec des sous-vêtements en laine, des vêtements en laine qui étaient totalement atypiques pour l'époque. En plus, à l'époque, il avait qu'une moustache et pas de barbe. Il avait pas de chapeau. Donc, dans Bergen, il marchait. Il était extrêmement reconnaissable. C'était Monsieur Nansen. Mmh. On le reconnaissait rien qu'à ses vêtements.
Bergen, l'une des plus grandes villes de Norvège, on le précise. Mmh. Alors, sa renommée, il l'a bâtie dans un premier temps par sa traversée du Groenland à ski et avec son expédition au pôle Nord. Mais en réalité, celle-ci a été un échec. Il n'est pas arrivé au pôle. Mais alors, c'est amusant, c'est comme si ça comptait pas. Et pourquoi ?
Parce qu'il a écrit.
Ah.
C'est le miracle de l'écriture. Mmh. Il a écrit son expédition au Groenland. Magnifiquement, il s'est devenu une star grâce à ça. Et il a écrit son expédition du Fram. Et alors là, c'est devenu une star mondiale européenne à l'époque, en 1900, hein, c'est pareil. Ça a été traduit dans toutes les langues européennes. Et il a été invité partout, dans tous les pays, par toutes les cours, les têtes couronnées, etc. Il parlait de son livre, de son expédition. Donc, il était connu partout grâce à la puissance de son livre, qui expliquait, en effaçant un petit peu les défauts, en lissant un petit peu le récit, combien ça avait été héroïque. Donc, voilà, c'est le miracle de l'écriture.
Vous savez, bien sûr que vous le savez, que Freud lui-même évoque Nansen, l'inventeur de la psychanalyse, relate un rêve dans lequel il interagit avec Nansen. Vous pouvez nous raconter cet épisode étonnant?
Oui, c'est une histoire abracadabrante. Freud est en vacances, il y a sa femme qui lit avec passion le livre de Nansen, traduit en allemand. Pour lui, il ne sait pas trop quoi faire, il le lit aussi. Et là, il raconte ça à son ami Fliss. Il fait un rêve où il est sur la banquise, il est médecin, et il sauve Nansen. Et il était en train de réfléchir sur Oedipe, le complexe d'Oedipe, l'échec, la castration, etc. Et il fait intervenir Nansen dans sa réflexion sur le complexe d'Oedipe. Et ça, c'est extraordinaire. Il était tellement connu que même Freud rêvait de lui.
Bon, dites donc. Alors, on va revenir maintenant sur son action diplomatique. Vous dites l'engagement de Nansen dans les affaires internationales a reposé sur un malentendu. C'est page 175. Qu'est-ce que vous voulez dire?
C'était pas un diplomate, simplement il était très connu. Donc il était reçu par tout le monde, et puis il a été ami personnel du roi d'Angleterre, la première puissance mondiale de l'époque. Donc bon, voilà, il avait une place. Et puis, son engagement après la Première Guerre mondiale était... il était traumatisé par la Première Guerre mondiale. Parce que c'était plutôt un homme avec des positions très conservatrices, vraiment. Mais là, il a eu l'impression que la Première Guerre mondiale, c'était l'effondrement de la civilisation européenne. Donc, il va se mettre au service de l'SDN en proposant ses services. Et là, on lui refile les dossiers impossibles. Parce que donc bon, c'est pas lui qui tellement qui a choisi de faire telle ou telle chose, c'est qu'on lui a donné ce que personne n'arrivait à faire. Et comme il connaissait tout le monde, comme tout le monde le recevait, comme il était capable de négocier de façon synchronisée avec toutes les puissances de l'époque, eh bien, ça a pu débloquer la situation. Par exemple, pour en effet récupérer les prisonniers allemands qui étaient en Sibérie. Après, il a aussi récupéré les Arméniens. Et donc finalement, c'est vrai qu'il n'a pas voulu ça. Simplement, on lui donnait une mission. Et lui, quand il y a une mission, ben il va jusqu'au bout.
Oui, ouais, c'est ça. Alors, est-ce qu'on peut établir un rapport, alors peut-être un peu artificiel, mais bon, entre cet engagement diplomatique et humaniste hein, finalement, et ces expéditions dans le Nord?
Bah, finalement, pas tellement. À la limite, le seul rapport, c'est que grâce à ces expéditions, il est devenu un héros européen qui avait donc une voix et qui pouvait parler à tout le monde. Après, il avait aussi une vision de l'homme. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est pas un grand humaniste. Il aurait plutôt une sorte d'humanisme viril à la Clint Eastwood, vous voyez.
Oui.
C'est-à-dire un type qui a des principes très nets et on traite pas les gens comme ça. Et donc il résout le problème.
Mais au nom de la morale plutôt, finalement.
Voilà une sorte de morale universelle où non, c'est pas possible que des gens meurent à petit feu dans des camps de réfugiés. Il faut les sortir de là, il faut leur donner la possibilité de sortir de là.
Est-ce que d'un point de vue de l'exploration, Nansen est un modèle pour les explorateurs jusqu'à aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a des modèles plus évidents?
Pendant des années après ses expéditions, il était devenu le Monsieur Paul. On venait le consulter, on venait. Lui, il adorait ça. Les jeunes explorateurs venaient lui demander. Et c'est vrai qu'Amundsen, autre Norvégien,
le plus connu, hein.
a donc suivi son modèle parce que le principe Nansen, c'était l'expédition légère.
Ouais.
Les expéditions lourdes avec des gros bateaux qui s'écrasaient sur la banquise avec tout l'équipage qui mourait de faim ou de froid, ça échouait tout le temps. Donc lui, c'était une expédition légère, des gens avec des skis qui tiraient des traîneaux. Et en fait, Amundsen a fait ça. Et au pôle, ça a marché. C'est Amundsen qui est arrivé au pôle sud. Tandis que Scott, qui le suivait avec une énorme expédition, avec des chevaux, des machines, etc., ben, il est mort de froid.
Bien, il me reste à vous remercier, Alexis Génie. Je rappelle que vous avez été prix Goncourt. Au fait, je reviens sur mon histoire de prix Goncourt. Quand on apprend qu'on est nommé, qu'on peut l'avoir, qu'est-ce qu'on ressent?
Bah, moi, j'étais surpris parce que c'était mon premier. Donc, je me disais que ça, bah oui, ça alors. Franchement, je m'y attendais pas. Parce que j'arrivais dans le métier. Et là, pauvre, ben voilà. Mais quand on reste sur la liste, au bout d'un moment, on s'y fait. On trouve ça. Petit à petit, on y croit.
Bien, coup d'essai, coup de maître. Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Merci beaucoup, au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Fridtjof Nansen, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Ludovic Asselot.